Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare.
Parole de femme.
Camissa Camara, bonjour, merci beaucoup d'accepter cet entretien avec le monde au féminin de VOA Afrique.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Alors, vous avez été ministre de l'économie numérique au Mali, vous avez été ministre des Affaires étrangères, conseillère diplomatique du président Ibeka, vous avez été secrétaire générale de la présidence, vous êtes experte en résolution des conflits à l'Institut de la paix des États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'objet de cet institut américain ?
Alors, USIP, et en anglais, c'est United States Institute of Peace. C'est un institut qui a été créé par le Congrès américain en 1984 et qui a pour mission principale la résolution des conflits en dehors des États-Unis et tout ce qui est programme de réconciliation entre les communautés et tout ce qui est stratégie de réconciliation à la base. Donc je travaille principalement sur un programme sur le Sahel. USIP m'a recruté en février dernier pour développer leur stratégie sur le Sahel et développer également des programmes qui pourraient être mis en œuvre dans la région du Sahel pour permettre une meilleure collaboration entre les forces de l'ordre et la population, pour permettre aux jeunes et aux femmes de s'impliquer davantage dans les programmes de résolution des conflits et de travailler avec des institutions comme le G5 Sahel pour leur permettre de se rapprocher davantage des populations pour enrayer le fléau terroriste. Donc un agenda et une mission assez chargée mais essentielle pour la région du Sahel.
On va revenir sur toutes ces questions, mais dans un premier temps, comme vous avez parlé de l'USIP, est-ce qu'on pourrait dire un mot sur la lauréate du prix Women Building Peace de cet institut, Joséphine Ekirou, qui est kenyane?
Alors, Joséphine Ekirou a obtenu le premier prix qui récompensait les femmes impliquées dans la résolution des conflits. Donc, Joséphine Ekirou est une dame kenyane qui, pendant des années et de son initiative propre, a mis en place des sessions de dialogue entre les pastoralistes, les éleveurs et les agriculteurs dans le nord du Kenya, qui est une région à fort potentiel agricole et qui d'ailleurs vit sur des revenus agricoles. Et donc Joséphine Ekirou à travers ces initiatives, réussi à instaurer une paix entre les différentes communautés en permettant justement à ces différentes catégories sociales de pouvoir communiquer, de pouvoir dialoguer, de discuter de leurs différends et de pouvoir surtout les résoudre. C'est une dame au courage exceptionnel et elle a gagné le prix et c'était un vote unanime qu'elle a reçu.
Alors, Camissa Camara, vous êtes franco-américano-malienne. Vous avez fait vos études en France, vous avez fait vos armes professionnelles, on va dire, aux États-Unis, et la politique, c'était pour l'Afrique. On ne peut pas ne pas parler du Mali, hein, avec les événements à l'époque. Hein, c'est pas très vieux, hein, c'est assez récent. C'est des souvenirs assez douloureux. Vous étiez encore secrétaire général de la présidence. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez regarder la situation au Mali avec du recul?
Effectivement, le coup d'État, c'était une expérience assez triste, je dirais. Les mois qui ont précédé le coup d'État étaient des mois à haute tension. Et bon, ce qui est arrivé est arrivé. Et je pense que je peux maintenant regarder la situation avec beaucoup de recul, puisque j'ai plutôt le regard tourné vers l'avenir Je suis relativement jeune, donc la carrière professionnelle que j'ai devant moi est bien plus longue que celle que j'ai laissée derrière moi. Donc j'ai vraiment le regard tourné vers l'avenir, mes projets personnels, tout en gardant le Mali dans mon cœur et en me disant que malgré la situation difficile que traverse le Mali, il faudra que des enfants de la diaspora comme moi se décident à s'investir dans leur pays d'origine et à travailler ensemble pour créer le Mali que nous voulons et le Mali que nos parents ont voulu.
À ce propos, le ministère malien des Affaires religieuses avait annoncé avoir chargé le Haut Conseil islamique de faire le pont avec les djihadistes pour dialoguer, ce qui a ensuite été démenti par le gouvernement. Selon vous, peut-on négocier avec les djihadistes ?
Donc, dès le lendemain de cette annonce, le gouvernement a démenti cette information en disant qu'il n'avait mandaté personne de manière officielle. Moi, je pars du principe que ce soit le Mali ou le Burkina, qui d'ailleurs n'ont jamais caché leur volonté de dialoguer avec les terroristes, malgré l'opposition de la France. Je pense que ces pays et leurs autorités ont bien conscience que la guerre au Sahel, la guerre contre le terrorisme, est une guerre de longue haleine qui serait difficile à gagner sur les moyens et long terme. Et c'est donc ces pays ont quand même conscience qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires, qu'elles soient logistiques, financières, humaines, pour venir à bout de ce fléau. Et peut-être, et là je le dis avec beaucoup de prudence, et peut-être que le dialogue avec les terroristes est une solution qu'il faudrait tenter. Et ce serait aussi, je pense, assez naïf de penser que ce dialogue n'a pas déjà commencé. C'est vrai que, en tout cas, ceux qui s'opposent à ce dialogue disent que ce sont des personnes violentes, axées, extrêmes, et avec lesquelles on ne devrait pas parler. Moi, mon avis personnel, c'est justement qu'il faudrait pouvoir comprendre d'où est-ce qu'elles viennent et quelles sont leurs réelles motivations.
Écoutez Le Monde au Féminin sur VOA Afrique. Camille Camara, d'une manière plus globale, hein, on est dans ce bourbier au Sahel, ce conflit. Aussi, on parle de plus en plus, hein, et c'est vraiment un problème qui devient important, de l'Est de la République démocratique du Congo, ces djihadistes aussi qui seraient donc liés à l'État islamique. On vient de parler du dialogue éventuel avec ces djihadistes. On connaît le plan militaire, hein, on parle quasiment de ça tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place, donc effectivement des stratégies militaires. On a au sein du G5 Sahel, qui est la coalition régionale qui comprend le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. Coalition régionale dont la mission principale est de venir à bout du fléau terroriste, surtout dans les régions frontières, dans les zones frontières du Sahel. Il y a des programmes de développement, des programmes de lutte contre la pauvreté, des programmes qui ont les jeunes et les femmes pour cible principale, qui viennent en appui aux opérations militaires de lutte contre le terrorisme.
Effectivement, ça c'est une stratégie dont on parle énormément depuis quelques années. Est-ce que ça marche ?
Je ne vous dirai pas que ça ne fonctionne pas. Ce que je vous dirai, c'est que la lutte contre le terrorisme est une lutte à très long terme. Il serait très difficile de voir des résultats au bout de 6 mois, au bout d'un an. On a en face de nous, et on le dit souvent, c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'on a en face de nous des ennemis qui sont changeants, qui ont des tactiques qui changent tous les jours.
Est-ce que c'est une guerre d'usure ?
Il se pourrait. En tout cas, ça en a tout l'air. Maintenant, on a beaucoup de chercheurs qui nous confirment qu'il faut absolument enrayer la pauvreté, qu'il faut trouver le moyen d'employer les jeunes pour les empêcher de rejoindre les groupes terroristes. En s'imaginant que cela va affaiblir les groupes terroristes, est-ce que cela a des effets immédiats ? Très difficile à dire. Donc je pense qu'il est quand même assez tôt pour évaluer même la lutte contre le terrorisme.
Forcément, la lutte contre la pauvreté peut régler bien des problèmes et de toute façon, c'est une lutte tout à fait respectable et humaniste et essentielle. Mais ça me fait penser à l'idéologie, au fanatisme. Ces jeunes qui se font recruter dans les pays occidentaux, ils n'ont pas forcément des problèmes économiques.
Vous avez bien raison de le mentionner. Il s'agit là de questions idéologiques, le radicalisme religieux. On a des jeunes qui sont dans des situations assez fragiles, même d'un point de vue identitaire, et qui se retrouvent dans ce genre d'idéologie. Ça quand même, même si je ne connais pas bien les statistiques, je dirais que ce sont des cas assez isolés. Le plus gros des recrutements se font quand même sur le terrain, dans des régions où l'État n'est pas présent, où on n'a pas de représentation des forces de défense et de sécurité. Et donc c'est vraiment dans ce type de régions, de secteurs, de zones que les efforts de lutte contre le terrorisme doivent s'opérer.
Revient sur les questions politiques en particulier, en citant trois pays sous lesquels on a un petit peu les projecteurs depuis quelque temps, la Guinée, le Tchad et le Mali. Le Mali, votre pays, Kamissa Camara, sans vouloir faire un amalgame, est-ce que selon vous, ces situations, elles vont faire avancer quelque chose au point de vue politique en Afrique?
Alors moi, d'abord, je suis personnellement fascinée par les coups d'État. Alors, vous regardez les exemples donc, du Mali, vous avez mentionné le Mali, la Guinée, le Tchad, des contextes différents, mais trois coups d'État, et dont les chefs de la junte sont des jeunes. La question, je pense, elle est plus de savoir comment et pourquoi les militaires qui ont pour mission principale de protéger le territoire national, comment est-ce que ces militaires se retrouvent dans des palais présidentiels? Est-ce qu'on a ici des effets de contagion, sans vouloir faire de raccourcis? Est-ce qu'on a des militaires qui sont en train de réaliser un peu la déception de la population envers les politiques? Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers une Afrique de l'Ouest et du Centre qui veut se débarrasser des politiques parce que ces politiques n'ont pas eu beaucoup de résultats en ce qui concerne tout ce qui est développement, éducation, santé, etc.? Il y a quand même une rupture. Et je pense que ces trois événements, même s'ils se sont déroulés dans des contextes extrêmement différents, la justification est la même. On est dans des régimes ou dans des situations où les militaires sont intervenus, en tout cas dans le cas du Mali et de la Guinée, pour balayer des politiques qui ne faisaient pas l'affaire des citoyens. Donc je pense qu'il y a quand même une rupture qui est en train de s'opérer et il ne faut pas regarder de l'autre côté de la rivière. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire là. D'un point de vue intellectuel, c'est assez intéressant, mais des changements sont en train d'arriver en visant un vent de changement dans les pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Je ne sais pas si ce sont des changements positifs. En tout cas, c'est certainement le mot rupture qui résume ce qui est en train de se passer en ce moment.
Alors justement, les prochaines étapes de ces pays, c'est forcément les élections. C'est le principal problème dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous êtes aussi...
Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec vous sur la question des élections. Je suis désolée de vous interrompre parce que vous me dites que donc, les élections, c'est le problème principal. Mais en fait, non. La communauté internationale pousse pour des élections au Mali, en Guinée et au Tchad. Mais dans ces trois pays, on a des leaders qui sont en train de repousser ces attentes de la communauté internationale en disant « Vos attentes et vos priorités sont les élections. Elles se sont pas les nôtres. »
Ne manquez pas de vous rendre sur notre site internet voaafrique.com, notamment dans les rubriques Femmes et Genre et LMF, dans lesquelles vous pouvez lire des articles, voir des vidéos, écouter des interviews et reportages parmi bien d'autres choses. Merci beaucoup de rester fidèles.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Merci beaucoup de rester avec nous sur VOA Afrique.
Kamissa Camara, en ce qui concerne les femmes, hein, parce que vous êtes vous-même donc une jeune femme vraiment talentueuse dans tout ce que vous faites, hein, vous faites rêver beaucoup de jeunes femmes de votre continent d'origine. Première question, sur le règlement des conflits, est-ce que selon vous, les femmes sont suffisamment impliquées dans les règlements des conflits à tous les niveaux, au stade des processus de paix? Parce qu'on sait que quand on rentre dans un processus de paix, on a tous les guerriers, ex-guerriers qui sont là à s'entendre pour organiser des meetings ici et là. Mais est-ce que les femmes, qui elles, comme on le dit toujours, hein, sont les premières victimes des conflits violents, sont suffisamment, selon vous, intégrées dans les processus de paix et de réconciliation, ou de prévention de la paix, ou de rétablissement de la paix?
En fait, les statistiques nous montrent clairement que ce n'est pas du tout le cas. Les femmes sont sous-représentées dans les processus de réconciliation, de reconstruction de la paix. En revanche, il y a quelques années de ça, je travaillais pour la Fondation nationale pour la démocratie et je finançais à l'époque des organisations de la société civile qui travaillaient dans la gouvernance. Donc la gouvernance incluait également la construction de la paix, de la résolution des conflits, etc. Et on avait quand même des ONG de femmes dans la région du Sahel et dans la région de l'Afrique centrale qui étaient quand même assez active dans la résolution de la paix. Le constat personnel que je faisais, c'était quand même que lorsque les femmes décidaient de s'investir dans des activités de résolution des conflits et de construction de la paix, les patriarches qui étaient en place et qui, en général, dominaient ces instances-là, leur faisaient de la place parce que ces dames-là avaient les idées qu'il fallait, elles avaient la présence qu'il fallait, elles avaient la volonté qu'il fallait pour justement régler ces conflits et elles étaient très puissantes, elles étaient écoutées. Peut-être qu'en termes de nombre, de chiffres, on a une sous-représentation des femmes, mais en termes de qualité, je dirais que les femmes qui sont impliquées dans des activités de résolution des conflits, et cela peut inclure également des activités officielles. Au Mali, on a eu un processus de négociation entre les anciens rebelles de 2012 et le gouvernement malien. On a des femmes qui étaient là dans les négociations à Alger et qui faisaient partie des différentes délégations et elles étaient extrêmement écoutées. Elles avaient une participation de qualité et on sentait qu'elles étaient réellement là pour leur mission qui était de résoudre le conflit.
Kamissa Camara, en ce qui concerne les femmes à des postes de décision au niveau politique, hein, est-ce qu'on a une réelle volonté de faire participer les femmes en politique parce qu'elles ont énormément de difficultés, comme on le sait?
Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer des Amazones de partout en Afrique et des femmes qui n'ont pas attendu qu'on leur tende la perche et qui se sont imposées. Je les vois de plus en plus nombreuses. Là, je pense à la ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, qui a passé beaucoup de temps dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, une grande dame politique, Kandia Camara, qui a été ministre de l'Éducation, je pense, pendant plusieurs années. Donc, on a une femme ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire, on a une femme ministre des Affaires étrangères au Ghana, on a une femme ministre des Affaires étrangères au Sénégal. Ça, ce sont les exemples qui me viennent à l'esprit. On a un premier ministre femme au Togo, un premier ministre femme au Gabon. On a quand même une montée en puissance des femmes en politique en Afrique, n'importe quel poste.
Il y a la défense aussi, hein.
Exactement. Ouais. Il y a quelques années, les femmes étaient cantonnées au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, au ministère de la culture, pas que ces ministères ne sont pas importants, mais c'était des ministères dans lesquels, excusez-moi du terme, on garait les femmes. Ce n'est plus le cas. On a des exemples concrets de femmes qui sont à de très hauts postes de responsabilité en Afrique et qui proches du président et des postes présidentiels. Donc je ne serais pas étonnée d'ici les 10 prochaines années de voir plusieurs femmes africaines présidentes de la République.
manquez pas de vous rendre sur notre site internet voaafrique.com, notamment dans les rubriques Femmes et Genre et LMF, dans lesquelles vous pouvez lire des articles, voir des vidéos, écouter des interviews et reportages parmi bien d'autres choses. Merci beaucoup de rester fidèles. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Merci beaucoup de rester avec nous sur VOA Afrique.
Kamissa Camara, on va terminer sur cet espoir, sur un grand espoir, parce que vous connaissez votre continent et on sait à quel point les femmes là-bas sont des battantes, des combattantes, des femmes patientes, des femmes extraordinaires qui luttent quotidiennement pour parvenir à nourrir leur famille. Quel mot d'encouragement vous pourriez avoir pour toutes ces femmes de toutes les générations, je dis bien de toutes les générations, parce qu'on a les jeunes qui ont de nombreux espoirs. Et leur maman et leur grand-mère.
Moi, je leur dirais tout simplement qu'il y a une chaîne de solidarité invisible entre chacune d'entre nous et que cette chaîne ne doit pas être brisée et que nous devons nous élever les unes les autres. J'ai tout au long de mon parcours rencontré des personnes formidables qui m'ont aidée, qui m'ont assistée. J'ai voulu rendre l'appareil à des jeunes filles, des jeunes dames avec lesquelles j'ai travaillé et ça a été ma plus grande satisfaction. Et je souhaiterais que toutes les femmes comme moi qui sont donc chacune dans leur activité, chacune dans leur domaine, chacune dans leur spécialité, se donnent pour objectif d'aider une de leurs sœurs, d'aider une jeune dame d'une génération différente pour justement qu'on puisse tout ensemble se lever et devenir une grande puissance. Je pense que ça, c'est très possible en Afrique. Et je pense que ce serait formidable qu'on puisse former justement une sorte de sororité à travers les âges, à travers les générations et à travers les frontières.
C'est vraiment très beau ce que vous venez de dire. J'ai beaucoup aimé le terme de chaîne de solidarité invisible. Donc, merci beaucoup Kamissa Camara pour toutes ces paroles que vous nous avez apportées. On vous dit à très bientôt.
Merci infiniment. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.